Europe 1, 15h, 16h, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet.
Bonjour. Si la vie idéale est la vie dont on rêvait enfant, alors Patrick Fiori a la vie idéale, puisqu'il a exactement la vie dont il rêvait enfant. D'une voix, il a fait un destin, 30 ans de carrière et les plus belles scènes internationales. Un air de famille est son 11e album et cultive plus encore le partage. On retrouve d'ailleurs Florent Pagny et Soprano en duo sur cet album. Vous l'avez compris, la balade s'annonce belle.
Europe 1.
Bonjour cher Patrick.
Bonjour et merci pour, pour ce joli texte.
Patrick Fiori, bon, chanter, ça peut paraître anecdotique, sauf si ça embarque carrément un destin. Chanter a toujours été au cœur de votre vie, aussi loin que remonte votre mémoire.
Mais aussi loin que remonte ma mémoire, chanter pour moi, c'est dès l'âge de 5 ans en fait. 5 ans déjà dans les familles, dans ma famille, où tout le monde jouait un petit peu de la guitare, tout le monde chantait un peu. Ouais, c'était des réunions familiales, aussi bien le midi que le soir, où ça sortait la guitare, où il y avait de l'abondance sur la table pour nous et pour le voisin d'à côté. Voilà. Et puis ça a été aussi important parce que mes parents étaient famille d'accueil. Donc je chantais aussi pour des gens qui ne me connaissaient pas du tout et qui ne savaient pas du tout ce que j'allais devenir.
Il y avait beaucoup de bambins à la maison parce que déjà 5 enfants, n'est-ce pas, plus ceux qui étaient accueillis.
Voilà, 5 plus à peu près 3 par chambre. Donc
voilà,
comme mes sœurs avaient...
Donc colonie de vacances.
Voilà, c'était une colonie de vacances. Voilà, et je voyais passer des têtes que je n'ai plus jamais revues d'ailleurs et j'espère qu'ils sont bien et qu'ils sont en pleine forme.
Mais eux, vous voyez à la télé.
Oui, peut-être. Et voilà, donc ça, c'est vraiment... on peut dire le mot amour dans cette famille, envie d'aider l'autre. Et puis chanter, je crois que c'était... j'ai été programmé pour ça, quoi.
Alors, avec la voix extrêmement puissante et timbrée qui est la vôtre, vous auriez pu tout à fait, à 16 ans, choisir le lyrique et chanter l'opéra. Ça vous a pas tenté, ça ?
Si, j'ai essayé plusieurs fois. D'ailleurs, j'ai commencé à l'Opéra de Marseille, pour tout vous dire. Et puis,
c'était dans une comédie musicale,
oui,
c'est ça ?
C'était dans une comédie musicale,
voilà,
mais je prenais des cours de lyrique. Oui, c'est ça,
exactement,
à l'âge de 11 ans. Je prenais des cours de lyrique, tout ça. Et puis, c'est une famille que j'ai approchée. En tout cas, à l'époque, ça s'était pas diversifié comme aujourd'hui. Le classique, c'était vraiment segmenté. La variété, c'était la variété. Donc, c'était pas des familles qui se fréquentaient, quoi. Et je l'ai senti, en fait. Et je me suis dit, bon, si le lyrique, en tout cas, si l'opéra dans lequel je voulais aller ne veut pas de moi, je vais aller ailleurs, quoi. Je vais voir un peu ce qui se passe.
Mais votre registre, c'est une voix de ténor, c'est ça ?
Ah, mais de toute façon, c'est ma voix de ténor. Je l'ai toujours. Hein. Je l'utilise de temps en temps pour moi dans la salle de bain. Ou avec Florent, quand on décide de se montrer un petit peu le truc, quoi. De se dire, allez, toi t'envoies, moi j'envoie.
Bon,
bref, c'est juste pour rigoler. Hein.
Mais vous venez de nous dire, si l'opéra ne veut pas de moi, c'est-à-dire que vous avez vraiment ouvert des portes et on ne vous a pas, à ce moment-là, retenu ?
C'est un petit peu ça. Je pense que c'était une culture. J'ai l'impression qu'il fallait manger opéra, vivre opéra. Moi, c'était plutôt apéro. Donc, ils ne voulaient pas de moi. Mais ça, je vous parlais du monde d'avant. Hein. Mais aujourd'hui, ça y est, ce sont des choses.
On a, par exemple, un Roberto Alagna qui a justement fait les ponts entre ces univers-là.
Déjà, merci. Parce que c'est certainement grâce à Roberto Alagna que j'ai commencé un peu à fréquenter ces gens. Et voilà, avec les années qui sont passées, ça s'est démocratisé. Et c'est vrai qu'il y a eu un duo avec Roberto Alagna, c'était la chanson du parrain d'ailleurs.
Ouais.
Parla più piano, nanana.
Ah, oui.
Et il a eu la gentillesse de la chanter avec moi. Et c'est vrai que ça m'a ouvert des portes juste après. Donc aujourd'hui, oui, je pourrais, si j'en ai envie. Et d'ailleurs, ça reste une carte de plus à jouer, peut-être dans les années qui vont arriver.
Je crois savoir quelque chose. Donc tout à l'heure, dans cette conversation, peut-être moi aussi vais-je pousser une porte. On va voir si vous nous répondez ou pas. En tout cas, Patrick Fiori, je pense qu'en 30 ans de carrière, une voix forcément évolue. Elle a gagné dans les graves, par exemple.
Elle a gagné dans tout. Elle a gagné dans tout. C'est ça. Et je suis content, quoi.
Même
parce
dans
que,
les aigus,
j'ai gagné
rarissime,
dans tout.
Ça.
Ah oui, mais j'ai gagné dans tout. Mais parce que je travaille. Je suis un bosseur. Donc, je chante énormément. Enfin, je veux dire, en tournée, c'est toujours des tournées, enfin, quand on pouvait en faire. Et là, ça va repartir. C'est une centaine de concerts par an, quoi. Donc, voilà, je suis au taquet, je suis à fond.
Alors, vous dites les tournées, quand on pouvait en faire. Mais en novembre dernier, sur la scène de l'Apollo Théâtre à Paris, c'est un concert très, très particulier que vous avez donné, cerné par des caméras, mais face à une salle vide, puisque le public était connecté de chez lui, mais public nombreux. Vous l'avez conçu et vous l'avez vécu comment, ce concert, pour livrer le nouvel album dont on va parler, Un air de famille?
Mais déjà, j'étais énervé, parce que d'être arraché aux gens comme ça, ça m'agaçait. Et j'essayais de trouver évidemment des solutions pour rester dans les clous. Et j'ai fait pour la première fois le premier live stream payant.
Live stream payant? Mais alors, attendez, le public, il avait été prévenu de quelle manière et combien de temps à l'avance?
5 jours.
5 jours.
Ouais, j'ai monté ça en 5 jours. Ouais, 5 jours, je me suis dit, on va faire un truc de fou. Et donc, quand j'ai su que l'Apollo Théâtre avait une bande passante, parce qu'il faut un nombre de connexions, et ça pouvait aller jusqu'à 200 000 connexions, je crois, j'ai monté ça en 5 jours. Je me suis dit, on verra bien ce qui arrive. De toute façon, nous, on va monter sur scène, on va chanter pour les gens. Bon, ce qui était génial dans ce théâtre-là, c'est que j'avais quand même des gens qui étaient là devant moi. C'est-à-dire que la salle était vide, ouais, mais je pouvais avoir une interaction avec
sur des
gens, ouais, sur des écrans, parce que j'avais envie de savoir comment ils allaient aussi, quoi. C'est pas simplement monter sur scène, chanter.
Vous n'avez pas fait que chanter, Patrick Fiori.
J'ai parlé avec eux à la fin. Je me suis pris une demi-heure, trois quarts d'heure pour discuter de la vie et savoir comment eux vivaient ce que nous sommes en train de vivre.
Alors, bon, vous allez recommencer, j'imagine, si les dates de réouverture des salles ne se précisent pas.
Ah, je prévois là. Pire. C'est pire que ça,
alors,
ce que je prévois. Ah non, je ne peux pas vous dire. Ça sera une surprise, mais ça sera pire. Ça restera de la musique, quoi qu'il en soit, mais je pense qu'il faut regarder les choses sous un autre angle.
Alors, j'imagine qu'en tout cas, au cœur de ce projet, bien évidemment, vous chanterez le nouvel album, Un air de famille, qui est né d'ailleurs dans un contexte particulier chez vous, à Ajaccio, pendant le confinement, avec toute la tribu familiale autour de vous, c'est
ben
ça?
Oui, non, mais c'était important de protéger ce que j'aime. Et puis, bon, je n'ai pas eu un sixième sens, parce qu'on ne peut pas dire ça, mais j'ai senti la catastrophe arriver. J'étais au ski, je m'en souviens, et puis je voyais ma famille qui était en train de skier, et puis il commençait à y avoir les premiers cas à la télévision, et puis je regardais tout le monde, j'ai dit, on rentre demain, on fait des provisions, et on monte à la maison au village, je récupère ma mère, je récupère mon père, je récupère tout le monde, et voilà, et ça va péter. Donc on me regardait un petit peu, en disant, non mais attends, tu exagères. J'ai même dit, on retire du cash, parce qu'on sait jamais si on en arrive au troc. Voilà. Donc voilà, j'ai senti le coup, et oui, j'ai pris toute ma famille à la maison, et c'était délicieux, finalement, parce que j'ai vu mes parents sous un autre angle, une autre manière. J'ai compris pourquoi ils disputaient depuis 40 ans. C'est parce qu'ils s'aiment, en fait. Et j'ai compris, en fait, que nos parents deviennent nos enfants, finalement. Ouais. Alors, finalement, j'avais tous les enfants à la maison. C'était cool.
Formidable. Alors, cet album, Un air de famille, bien sûr, on va en parler tout à l'heure. Juste comme ça, en quelques mots, avant de faire une petite pause. Juste, voilà, je dis en quelques mots. Non, c'est quelques mots qui ouvrent la chanson que Goldman vous a écrite, Patrick Fiori. Donc, et ces mots qui font bien la césure avec le monde d'avant. Cette chanson que vous, d'ailleurs, interprétez à cappella, ce qui la rend particulièrement forte. J'aimerais les reprendre. Je te chante un monde presque oublié où les grands-mères embrassaient les enfants. Un monde tête à tête et mains nouées, sans crainte ni gants, il n'y a pas si longtemps. Je chante un monde envolé. Vous attendiez à ce que Goldman vous offre ce texte-là?
Non. Non, quand j'ai reçu cette chanson, je l'ai pris comme un énorme cadeau. Et puis j'ai eu le sentiment, comme je le dis, et je ne m'en cache pas de ça, et je ne sais pas si ça va lui faire plaisir, j'ai eu l'impression qu'il me l'a prêté, quoi. Et j'avais vu auparavant sa manifestation sur les médias pour tout le corps médical, tout ça, pour tous les gens, où il avait adapté d'ailleurs des paroles sur une chanson qu'il avait composée et écrite. Et je me suis dit, le message, il veut vraiment qu'il passe, quoi. Donc il compte sur moi, je compte sur lui, donc je vais faire en sorte que ça puisse aller au bout, droit au but. Donc cette chanson s'appelle « Nous ne le savions pas ». Et il dit une autre phrase magnifique. « Nous étions des princes, nous étions rois, mais nous ne le savions pas. » Et on devrait se la dire tous les jours, en fait, ces phrases-là, je pense.
Elle est sur le nouvel album de Patrick Fiori, « Un air de famille ». On retrouve tout de suite Patrick.
Europe 1, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet.
Je reçois Patrick Fiori, dont le nouvel album a pour titre Un air de famille. Alors, cher Patrick, parlami d'amore, Mario, que vous chantez votre maman quand vous étiez tout petit pour vous endormir, forcément vous vous en souvenez. Ça faisait comment?
Ah oui, je m'en souviens très très bien parce qu'il y avait une lumière de fortune, on était plusieurs dans la pièce, je vous le disais, mes parents étaient famille d'accueil.
Donc elle faisait un concert en fait.
Oui, non mais en fait pour nous endormir, elle le chantait doucement et puis je me souviens que même il y avait le voisin qui tapait de l'autre côté parce que les parois étaient très 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 fines en disant genre vous allez arrêter et puis ma mère plus il disait ça et plus elle chantait fort. Alors et elle nous chantait cette chanson là qui est une chanson d'enfance. Parlami d'amore, Mario, tutta la mia vita sei tu. Gli occhi tuoi belli brillano, fiamme di sogno scintillano. Dimmi che illusione non è,
Dimmi chi sei tu per me, qui sul tuo cuore non soffra più. Parlami d'amore, Mario.
Alors, il
j'adore
faut que
cette
je...
chanson.
Oh mon Dieu.
Et bien,
surtout interprété comme ça, il faut que je précise aux auditeurs que, en fait, il a reculé de 2 mètres par rapport au micro.
Non, mais c'est pour l'ingénieur du son, sinon il va galérer.
Ample, tant la voix est prodigieuse. Il est carrément allé se coller au fond du studio. Et là, pourtant, tous les potters sont montés à fond.
Ouais, mais l'opéra n'a pas voulu de moi quand même.
Vous n'avez pas dit votre dernier mot. Bon, alors, votre maman, cher Patrick Fiori, est corse. Votre papa est arménien. Je pourrais dire que vous êtes mezzu corse, mezzu arménien.
Exactement.
Voilà. La Corse, vous l'avez découverte rapidement. L'Arménie, ça reste un pays mystérieux, hein, qui a subi un génocide. Et la famille de votre père, quand elle est arrivée à Marseille, a cultivé le secret pour que la vie de la descendance ne soit pas trop impactée. En fait, on vous a jamais parlé de l'Arménie dans votre jeunesse.
Jamais.
C'est ça ?
Jamais, parce qu'on voulait pas que je parte avec un bagage lourd, quoi, dans la vie, que je sois léger, comme tout enfant, et que je puisse avoir une enfance et une adolescence normale, quoi. Donc, moi, j'ai découvert sur le tard l'histoire de l'Arménie, son génocide, il y en a eu un, il y en a eu un deuxième, là, il n'y a pas très longtemps, finalement. Et puis voilà, c'était important pour mon père, et de la part de mes grands-parents, de se dire, non, il faut qu'il soit élevé, normalement, il faut s'adapter aux coutumes, là, on est en France. Enfin, je suis français, je suis né ici, mais c'était important, quoi, de ne pas pointer du doigt celui qui avait créé ce génocide, ou en tout cas qui était dans cette idéologie de dégager de l'arménien, voilà, j'ai jamais été là-dedans. Donc du coup, ben, merci, parce que ça a pu m'ouvrir les yeux sur le monde, et ça a pu faire en sorte que la différence, en tout cas, n'existe pas, quoi. Et elle n'a jamais existé.
Vous avez appris sur le tard, je crois, que la maison de famille en Arménie, qui était celle de votre arrière-grand-père, était la seule qui avait échappé à un massacre dans le petit village, n'est-ce pas ?
Exactement, c'est du côté de Chouchi, dans le Haut-Karabakh, qui appartient à l'Azerbaïdjan maintenant, puisque voilà, les territoires ont été conquis. Et puis ça a été la maison oubliée, donc les Turcs étaient passés dans ce village-là et puis avaient fait évidemment ce que vous pouvez imaginer, un drôle de massacre. Et la dernière maison dans laquelle la famille priait pour pas mourir, quoi, c'était les Chouchaïans. Donc voilà, ça a été la maison oubliée. Donc si je suis là aujourd'hui, c'est que je suis un enfant rescapé du génocide. Voilà.
Alors Patrick Fiori, c'est à Marseille que vous avez donc grandi. Votre papa était déménageur. Mm-hmm. Et alors pour charrier... Elle avait de l'humour, votre mère. Il paraît qu'elle aimait bien répéter qu'elle était sa meilleure cliente, car vous avez quand même déménagé 18 fois dans Marseille.
19 fois
19 fois dans Marseille, intramuros.
Et qui dit mieux ?
Personne.
Personne. Au départ, on peut se dire, mais c'est un scandale, quoi, de prendre les enfants et de les bourlinguer à droite, à
mais
gauche,
tout
ça.
Mais pour
quelle raison ? Parce que ma mère adorait déménager. Dès qu'on avait terminé les tapisseries, quand on avait fait ce fameux passe-plat, là, parce qu'on démontait toujours une cloison quelque part. En fait, on laissait les appartements en location dans lesquels nous étions encore 10 fois plus beaux qu'à l'arrivée. Et ma mère, en fait, au travers de cette manifestation de déménagement à chaque fois, je pense que...
C'était comme une quête infernale.
Elle avait envie de rentrer chez elle. Et elle voulait juste nous dire jusqu'au dernier moment, au dernier souffle, je veux rentrer chez moi,
donc,
je veux rentrer en Corse.
Donc c'est pour ça, rentrer en Corse, c'est pour ça que finalement le 20e déménagement, ça a été le bon.
Voilà,
c'est
le 20e,
retour
c'est
dans
le bon.
L'île de beauté.
Mais c'est très simple, elle s'est levée, et je m'en souviens comme si c'était hier, nous étions tous à la table, évidemment, avec une belle abondance. Ma mère cuisine pour elle et pour tout l'immeuble aujourd'hui, même en Corse, hein, pour toute la famille et tout le quartier. Et puis elle a regardé mon père droit dans les yeux, ses yeux bleus là, et lui a dit « Mon amour, je veux rentrer chez moi ». Et mon père, évidemment amoureux dingue encore aujourd'hui de ma mère, lui a dit « Écoute, mon amour, dans 15 jours, on est chez toi ». Et 15 jours après, on a déménagé, on a chargé le camion, et on a pris le bateau, et puis on est allé habiter en Corse. Voilà.
Mais alors, vous allez vite en besogne là, cher Patrick, parce que quand même, je voudrais rester un petit peu sur l'enfance et l'adolescence. 19 déménagements en 20 ans, c'est pas courant. Comment on fait pour garder ses copains ?
Eh ben ça va, parce qu'il y avait des transports en commun à Marseille, du côté de Marseille. Et puis on arrive à garder ses copains, et puis je pense qu'il y a une sélection naturelle qui se fait. Il y a des amitiés qui deviennent très très fortes et dont on ne se sépare jamais et encore aujourd'hui. Et puis il y a les copains de passage. Voilà. Moi, ce qui m'a le plus perturbé, c'est le changement d'odeur et le changement d'endroit, de quartier, de bruit,
ouais,
en fait.
Ouais.
Parce qu'on se retrouve avec un appartement, puis ensuite une maison avec des poutres, ça craque. Voilà. C'est pas la même chose. C'est juste ça qui m'a perturbé. Mais finalement, les gens que j'ai rencontrés, je les retrouve au fur et à mesure des années. En tout cas, je pense qu'il y a des rendez-vous dans la vie. Il y a quelques ronds-points et puis ils sont là. Et puis moi, je suis là. aussi, quoi.
Alors, comme vous aviez la voix du bon Dieu, très très vite, on vous a fait chanter dans les églises, les mariages, oui, les communions.
On m'a exploité.
On vous a exploité.
J'ai été exploité.
Mais je voudrais savoir comment s'est faite la connexion avec le fils de Franck Fernandel pour que vous vous retrouviez à l'âge de 11 ans dans une comédie musicale, donc La Légende des Centeniers, qui était jouée à l'Opéra de Marseille.
Alors, c'est grâce à un garçon qui a une radio du côté de Marseille. Je ne sais pas si je peux dire le nom.
Monsieur.
Oui, alors c'est Radio Star. Ouais. Et c'est René Baldassini, en fait. C'est René Baldassini qui m'a fait rencontrer Franck Fernandel. Et du coup, il était...
Fils.
Oui, le fils, oui, bien sûr, fils, pardon. Et il montait une comédie musicale qui s'appelait La Légende des Centeniers de Provence. Et c'est grâce à lui que j'ai mis les pieds pour la première fois à l'Opéra de Marseille. Parce que la première représentation de cette comédie musicale-là se faisait à l'Opéra de Marseille.
Mais alors, on s'organise comment quand, justement, on est collégien et qu'on a déjà une vie de chanteur professionnel?
On s'organise à parler à ses parents et à dire que les études, c'est bien, mais que moi, l'école de la vie, c'est ce qui m'intéressait le plus, quoi. J'ai pas vraiment ouvert de livres dans ma vie, je suis autodidacte complet, ça m'empêche pas de diriger un orchestre philharmonique aujourd'hui, ça m'empêche pas de faire des chansons, ça m'empêche
vous
pas de...
Vous avez dirigé un orchestre philharmonique.
Oui, oui, bien sûr, oui, oui. Mais voilà, alors c'est pas le conseil que je donne aux jeunes gens, au contraire, faire des études c'est important. Moi, j'ai été quelque part traumatisé, et mon Dieu, tant mieux, par la musique, par les chansons, sous influence, par des artistes que j'entendais à la radio, que je voyais à la télévision, et je me disais, mais en fait, c'est ça, quoi. Ces gens-là sont utiles pour nous, et moi, je voulais être utile.
On retrouve tout de suite Patrick Fiori.
Europe 1, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet.
La mère de famille et le nouvel album de Patrick Fiori, avec qui on se promène cet après-midi. Alors, cher Patrick, on va continuer d'agiter les souvenirs. En réalité, je devrais dire, au lieu de dire Patrick Fiori, je devrais dire Patrick Chouchaillant,
on
n'est-ce pas
aussi,
parce que
sûr,
c'est votre véritable nom. Vous aviez 14 ans quand vous avez décidé d'en changer. Pourquoi?
Mais parce qu'en fait, on me laisse trop pied à l'école et puis ça m'agaçait, quoi.
D'accord.
Donc, comme ils ne savaient pas le dire, du coup, je levais le doigt avant qu'ils disent le Yan, avant d'arriver au Yan, parce que c'était une catastrophe. Puis je suis allé voir mon père, parce que je commençais un petit peu à chanter, je commençais à bricoler, là. Et puis, j'ai dit papa, j'ai dit Chouchaillant, j'ai dit c'est trop long, et les gens l'écorchent et tout, j'ai dit ça me fait mal au cœur à chaque fois. Et puis, il y a ma mère qui dit, je sais pas, il y a Fiori, peut-être, tu peux prendre celui-là. Et donc, mon père le regardait.
Son nom de jeune fille.
Le nom de jeune fille de ma mère. Et puis, c'est sûr que Patrick Fiori, c'est plus facile, c'est plus simple. Voilà.
Ça sonne.
Ça sonne mieux, ouais, c'est ça. Mais c'était ça. Et puis, au moins, il se trompait pas, quoi. Voilà. Et donc, du coup, j'ai été sauvé par ma mère, mon père qui a accepté. Mais bien évidemment, je m'appelle Patrick Chouchaillant.
Bien sûr. Alors, ça, c'était l'année de vos 14 ans. Deux ans plus tard, sous ce pseudonyme qui, en fait, et le nom de jeune fille de votre maman, vous enregistrez votre premier disque autoproduit. Vos parents puisent dans leurs économies pour ça. Mais qui avait écrit, qui avait composé les chansons?
Ben moi déjà, je faisais des choses. Et puis,
vous faisiez tout?
Oui, non, tout non, mais je commençais un petit peu à sortir ma tête, quoi. Je me disais, j'ai fait des trucs, peut-être que ça peut être sympa. Et puis j'avais des professionnels en face de moi. Je me souviens de Sandro Abaldonato, de El Chato. D'ailleurs, à l'époque, qui était le fameux beau gosse dans la classe. Je ne sais pas
oui,
si les gens se souviennent de... En tout cas, c'est une autre génération, c'est sûr. Et puis, voilà. Puis avec cette équipe-là, on a commencé à faire des choses, commencé à faire des chansons. Et puis, il y a même eu René Baldassini, le fameux garçon là, de Radio Star, à l'époque, qui m'a fait faire la comédie musicale La Légende des Centeniers de Provence, ça s'appelait comme ça. Et puis voilà, tout le monde a mis un petit peu la main à la pâte. Tout le monde m'a un petit peu aidé financièrement, toute la famille. Quand je vous dis toute la famille,
c'est toute la famille.
La famille. Les Arméniens, les Corses, les Gitans aussi.
Oui.
Tout le monde a mis un petit peu des sous et puis j'avais réussi à faire cet album-là.
Alors, Patrick Fiori, on apprend énormément d'une première fois. Qu'est-ce que vous avez compris du haut de vos 16 ans avec ce premier disque sous le bras?
J'ai compris que ça n'allait pas être facile du tout. Hein. J'ai compris que j'allais en prendre des TGV pour faire des rendez-vous à Paris, pour voir les gens, parce qu'à l'époque, c'était les cassettes.
Ouais.
Et les cassettes, on pouvait les arrêter à n'importe quel moment. Ce que je ne savais
hélas,
pas, c'est que pendant qu'on écoutait vos chansons, la personne en face, les producteurs à l'époque, en tout cas les gens de maison de disques, pouvaient en même temps parler et dire « Non, mais attends, ce rendez-vous, tu me le décales. » Et en même temps, il était en train de vous écouter. Donc je me dis « Mais comment ils peuvent se concentrer, ces gens, pour écouter, en tout cas pour me donner un avis sur ce que je vais faire ?» Donc je n'étais pas prêt à tout ça. Et puis finalement... ben, ces gens-là, peut-être, avaient la possibilité de faire plusieurs choses en même temps. Donc,
mais on n'en est pas certain.
Je ne suis pas certain. Mais en tout cas, voilà, ça m'a donné la possibilité de pouvoir monter dans la capitale.
Alors voilà, ce que vous avez fait donc 2 ans plus tard. Et alors, cette fois-ci, en fait, y a une émission qui, pour vous, a été le véritable premier vrai tremplin. Émission de télé qui s'appelait Les Habits du Dimanche. C'était un concours dans plusieurs catégories, dont le chant. Et alors, vous êtes resté en lice pendant de très, très nombreuses semaines, numéro 1 du concours. Hein,
ouais, c'est ça.
Avec pour marraine, j'ai appris ça, Dalida.
Exactement.
Et ça, c'était peu de temps avant que Dalida ne décide de nous quitter.
Exactement. Elle m'a reçu, elle nous a reçus dans sa loge, mon papa et moi. Et on a assisté à un temple d'humilité. Hein. Et puis, elle a demandé à la production, elle a dit, je voudrais que Patrick Fiori vienne dans ma loge. Et donc, je suis allé dans la loge avec mon papa. Et cette dame-là a été d'une douceur, d'une délicatesse, d'une gentillesse extrême. Donc, je le dis parce que je l'ai rencontrée, j'ai eu cette chance-là. Mmh. Et elle m'a dit des choses magnifiques. Et ce que j'ai retenu, parce que ça, je vais le garder pour moi, ce que j'ai retenu, c'est ne lâche jamais rien. Garde cette conviction et cette envie de chanter, de faire du bien aux gens, et tu verras qu'un jour ça paiera. Ben, je crois qu'elle avait raison.
Totalement. Alors, des concours, vous allez en remporter beaucoup. Des premières parties, vous allez en faire beaucoup. Et en 93, vous chanterez devant les 300 millions de téléspectateurs du concours de l'Eurovision, en portant les couleurs de la France. Mais vous allez arriver sur 25 candidats, vous allez arriver 4e, c'est magnifique. Mais votre véritable naissance artistique et médiatique, bien sûr, c'est à la comédie musicale Notre-Dame de Paris que vous la devez, qui a totalement renouvelé le genre, en fait, et relancé les comédies musicales en France. Alors, j'imagine qu'au casting, il devait y avoir un paquet de prétendants pour le rôle de Phoebus.
Ah, on était nombreux, ouais. Puis, en
c'est
plus,
vrai.
Ouais, puis le seul malade, c'était moi. J'avais une grippe ce jour-là, vous imaginez même pas. Je suis arrivé, j'étais dans un état pas possible et je vois Luc Plamondon et Richard Cocciante. Peut-être que je devais être le 100e soldat à me présenter devant cet énorme micro. Et puis, je fais ce que je peux. Je chante Belle et Déchirée. C'est une chanson que j'avais appris au préalable. Et puis voilà, puis je chante, puis je me dis, je pars de là, je me dis, bon, jamais il me rappelle. Jamais.
Vous aviez entendu chanter les autres avant vous ou pas?
Je les entendais au travers de la cloison qui était épaisse quand même. Et j'entendais, bon, mais ça
disiez,
envoyait du bois de l'autre côté.
Oui.
Aïe, 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 aïe. Je me dis, mais jamais, moi, jamais je passe au travers. Et donc, voilà, j'ai reçu ce fameux coup de fil après qui m'a honoré parce que je me suis dit quand même, waouh, c'est génial. Et donc, voilà, une dame m'a appelé de la production du côté de Luc Plamondon et qui m'a dit, hey, Steiger, hein? Ouais, parce qu'elle m'appelait de loin, en fait. Hein. Vous êtes pris pour le rôle de Phoebus dans Notre-Dame de Paris. J'y croyais pas, quoi. J'ai raccroché au nez. Elle a rappelé 3 fois. Et puis, à un moment, mon père a décroché. Il m'a dit, bah, faut t'arrêter de déconner maintenant, parce que ça a l'air important. Et j'ai embarqué.
Alors, important, c'est peu de le dire. L'aventure a duré 3 ans. Vous avez joué dans le monde entier, n'est-ce pas? Chanté dans le monde entier, Notre-Dame. Bon, le souvenir le plus fou que vous gardez de ce chapitre incroyable de votre histoire?
Le souvenir le plus fou que je garde, c'est la première prestation en télévision avec Garou et Daniel Lavoie. La première fois que nous avons chanté Belle.
Pourquoi?
Alors, aussi bizarre que ça puisse paraître, alors, d'une manière très prétentieuse et très personnelle, nous savions tous les trois qu'on avait affaire à un monument, en fait. Je crois que le public ne le savait pas encore, les médias ne savaient pas encore, mais quand on a chanté cette chanson-là pour la première fois, d'ailleurs, c'était sur une télé de Patrick Sébastien. Et il y avait Andrea Bocelli qui était là, enfin, il y avait que des gens, des stars, quoi. Moi, j'étais impressionné dans les loges quand je voyais ces gens, c'est pas possible, mais où
avec
on est?
Avec des voix sublimes.
Voilà. Et nous, on arrivait avec notre jolie chanson, avec Belle, et ce jour-là, quand on a terminé de chanter, on a terminé la prestation, j'ai regardé Garou et j'ai regardé Daniel, et je leur ai dit, on n'est pas à l'abri d'un succès, les mecs. Et on en a vendu 19 millions.
Belle, malgré ses grands yeux noirs qui vous ensorcellent, la demoiselle serait-elle encore plus saine quand ses mouvements me font voir monts et merveilles sous son jupon aux couleurs de l'arc-en-ciel. Avant de vous avoir mené jusqu'à l'autel, quel est l'homme qui détournerait son regard d'elle, sous peine d'être changé en statue de zèle. Ô fleur de lys, je ne suis pas homme de foi, j'irai cueillir la fleur d'amour. Je poserai mes yeux.
C'était presque ce matin sur Europe 1.
Nicolas, si tu écoutes Europe numéro 1, sache que c'est Bibi qui est à l'origine de toutes les emmerdes du moment. Quel bien ça fait.
La revue de presque de Nicolas Canteloup,
tous les jours à 8h40 sur Europe 1
et quand vous voulez sur europe1.fr. Europe 1, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. 15h, 16h, avec Isabelle Morizet.
Son nouvel album a pour titre « Un air de famille ». Eh oui, un air de famille, c'est ce qui nous relie quand on aime les mêmes chansons. On se promène avec Patrick Fiori cet après-midi. Alors, cher Patrick, à l'instant, on évoquait le phénomène Notre-Dame de Paris. 19 millions d'albums, vous avez vendu de belles, c'est absolument prodigieux. Ça, c'était il y a presque 25 ans. Pourquoi, depuis, n'avez-vous jamais chanté dans une autre comédie musicale? En fait, Notre-Dame était un triomphe indépassable.
Je pense qu'on ne peut pas faire la version 2, quoi. C'est-à-dire, quand on sort d'un tel succès, ce n'est pas possible. On m'a proposé plein de choses après, même de faire des musiques pour des comédies musicales. Et j'ai tellement été ancré, c'est tellement dans mon ADN, que j'ai dit non, en fait. Je reste là-dessus, quoi. Je reste le capitaine Phoebus, je reste cette voix de cette chanson merveilleuse, chanson belle, de cette comédie musicale-là. Voilà, j'ai pas envie de faire autre chose dans ma vie, quoi. Voilà.
Alors, vous avez été, n'empêche, parce que vous étiez très sollicité à l'extérieur, vous avez été le premier à quitter l'aventure de Notre-Dame. Votre album solo, l'année où vous êtes parti, portait bien son nom, Chrysalide. Mais Jean-Jacques Goldman n'écrivait pas encore des chansons pour vous
époque-là. Non, ça a été un petit peu plus tard.
Ça a été un peu plus tard. Alors, il paraît que Jean-Jacques Goldman, en fait, vous lui avez écrit, Patrick Fiori, quand vous aviez 18-19 ans. Vous avez en réalité posté 400 lettres à tous les producteurs, les maisons de disques, les chaînes de télé, les stations de radio, les artistes répertoriés. Et la seule réponse que vous avez eue était de Jean-Jacques Goldman.
La seule réponse écrite. Voilà, c'était même pas
manuscrit.
C'était même pas un fax ni quoi que ce soit. Oui. C'était une lettre.
Il avait pris sa plume
pour m'écrire et il me disait
des jolies
choses.
Et que vous disait-il?
C'est pas compliqué en fait. Il me disait juste déjà qu'il me remerciait de lui faire confiance et qu'il pouvait pas travailler pour moi parce qu'il était en train de bosser, je sais plus, sur Céline Dion, Khaled, enfin il était en train de faire des bricoles quoi. et ça terminait par j'espère que vous trouverez des auteurs et des compositeurs à la hauteur de votre voix. Voilà, donc en fait il me disait non, mais avec beaucoup d'élégance, mais je sentais qu'il y avait un rendez-vous quand même.
Eh ben oui, ouais. Parce que vous savez, le temps fait toujours son œuvre. Et voilà qu'un jour, vous vous retrouvez dans les coulisses des Restos du Cœur. Et alors une fois de plus, Goldman fait preuve d'empathie, parce qu'il faut nous raconter la rencontre et la manière dont il va arracher un bout de nappe en papier pour écrire. Dites-nous tout.
Ouais, mais c'est à la Goldman quoi, c'est le truc très simple. En fait, je lui parle de cette lettre, et puis il me dit ah bon, j'ai écrit ça, genre je m'en souviens pas. Et puis on fait cette édition. Voilà, je m'implique comme je le suis pour les Restos du Cœur, pour les Enfoirés depuis 21 ans.
Ouais.
Et puis d'un coup, à la fin de cette session-là, il vient avec un bout de papier, avec un numéro de téléphone, et puis il me dit écoute, si t'as besoin un jour de quoi que ce soit, n'hésite pas quoi.
Et
voilà. J'ai regardé le papier 15 jours.
Ouais, mais c'est ce que j'allais vous demander.
Je me suis dit putain, mais je vais appeler ou je vais pas appeler. Et j'ai appelé et on s'est retrouvé dans un resto et puis on a parlé de tout. Alors c'est fou parce que c'est paradoxal, on a parlé de tout sauf de musique.
Voilà,
on a parlé de la vie, on a parlé de cette ère de famille.
Il fallait
finalement.
Bien, voilà, exactement, faire connaissance. Alors depuis, c'est à la fois une collaboration récurrente et une amitié qui se sont développées, parce que Goldman vous a écrit un titre qui a une forte charge émotionnelle sur ce nouvel album, donc Un air de famille. Mais cette amitié, elle se nourrit de quoi en fait? Vous vous voyez régulièrement? Vous échangez de loin en loin? Quels sont vos centres d'intérêt non professionnels en commun? Parce que bon, la musique c'est votre passion commune, mais autour.
Ben la vie, les coups de fil, comment ça va? Enfin, la famille, la vie.
Il vient vous voir en Corse, à Ajaccio?
Non, pour l'instant, il n'est pas venu à Ajaccio. C'est plutôt moi qui me déplace.
Oui.
Mais bon, c'est pas un problème du tout. Et puis, c'est un échange permanent. C'est un grand homme, quoi, Jean-Jacques. C'est quelqu'un qui vous donne les outils et puis c'est à vous de savoir vous en servir. Il sait faire des gens des soldats du cœur, en fait. C'est un être merveilleux.
Alors, sur ce nouvel album, Un air de famille, on trouve aussi Florent Pagny, en duo avec vous. Ah, ça, carrément, ça relève de l'exploit, parce que le temps que Pagny donne son accord pour enregistrer une chanson, il paraît qu'il est déjà en Patagonie.
Il faut 10 ans.
On l'a perdu, il est hors des écrans radars.
Mais il a raison.
Comment vous êtes débrouillé cette fois-ci?
Mais c'est ça qu'il faut faire, il a raison,
Florent. Il paraît que ça fait 10 ans que vous l'attendiez.
Ça fait 10 ans que je lui cours derrière, en fait. Enfin, c'est une image, parce qu'on s'est rencontrés une fois, et puis il y a des regards beaucoup plus intenses dans la vie que juste se croiser. Il y a le regard d'avant, le regard d'après. Et là, vous savez comment on attrape un enfant par les bras pour lui dire quelque chose, pour bien le regarder en face. Je l'ai bien chopé et je lui ai dit, Florent, j'ai envie de chanter avec toi. J'ai dit, c'est pas que je veux me dorer la pilule, c'est que j'ai envie que nos voix se rencontrent. J'ai vraiment envie, quoi. Et donc, je vous parle de ça il y a 10 ans. Il me dit, ouais, mais vas-y, c'est bon. Enfin, vas-y, propose-moi des trucs et tout ça. Et j'ai fait des chansons. Je me suis dit, non, c'est pas celle-là. Et comme je suis un garçon patient, pendant le confinement, là, je l'ai appelé. J'avais cette chanson, J'y vais. Il n'y avait pas le texte encore. Et puis, je voulais parler de l'enfance parce que Florent a chanté tellement de sentiments qu'il fallait faire attention à quoi lui proposer. Et donc, je lui envoie la chanson. J'arrive à la voir, donc au bout du monde, et il me répond. Il me dit, écoute, moi, il me faut 2-3 jours pour réfléchir. Je dis, tu prends le temps que tu veux. Tu me dis oui, mais tu me dis merde, mais tu me dis quelque chose. Et donc, il me rappelle 3 minutes après. Il me dit, je te dis oui et à 1000%. Et donc, c'est devenu ce duo-là qui s'appelle J'y vais.
J'y vais. Et alors, toujours sur cet album, Un air de famille, il y a une signature féminine étonnante. Alors, qui est celle d'une femme à la beauté impressionnante. Franchement, elle fut élue dauphine en finale du concours Miss France. Elle est votre épouse depuis 2008, Ariane donc, qui connaît toute la solitude de son mari chanteur après un concert et qui, justement, a écrit un titre sur l'étrange vie des stars lorsqu'elles quittent la scène. Elles ont chanté devant 10 000 personnes et elles se retrouvent seules dans leur chambre d'hôtel, vidées, heureuses, mais en même temps désemparé.
Ben oui, c'est pas quelque chose de normal de se retrouver autant de gens qui vous sollicitent et qui vous clament leur ferveur, quoi, quand vous êtes chanteur. Enfin, quand vous montez sur scène, c'est pas un truc normal pour moi encore aujourd'hui. Et c'est sûr que cette vision de l'artiste, je dirais, j'ai le sentiment que ça peut être écrit que par quelqu'un de proche. Alors là, ça a été elle, ça aurait pu être Jean-Jacques, ça aurait pu être Soprano, ça aurait pu être Slimane. Mais là, en l'occurrence, le texte qui est apparu sur la table un beau matin, quand j'ai vu le texte, que je l'ai lu, j'ai fait...
Comment vous l'a-t-elle glissé? C'est-à-dire, c'était au petit-déj?
C'est très simple. C'est très simple.
Comment
en fait.
Passé?
Mais non, mais moi, je fais de la musique très fort dans la maison, donc ça saoule toute la famille. À un moment, il vient de me dire, tu peux baisser un peu, s'il te plaît, parce qu'on regarde un film, là. Bon, ok, d'accord, je ferme ma gueule. Là, ça va, j'arrête de chanter. Et puis, du coup, je pense que je suis aussi une source d'inspiration dans cet habitacle dans lequel toute la famille vit. Donc, elle est en première loge, elle est en première ligne. Et c'est pas évident aussi pour elle, je trouve, parce que quand j'arrive et que je dis, écoute, Jean-Jacques, il m'a dit ouais pour une chanson, telle personne m'a dit oui, donc ça met une pression supplémentaire. Mmh. Mais je crois qu'elle se laisse pas impressionner par ça, et surtout, ce n'est pas parce que
c'est
je lui ferai de cadeaux, quoi.
Bien sûr.
Parce que moi, mon travail, c'est de faire des choses bien.
Mais alors, comment vous a-t-elle soumis ce texte?
Il était sur la table, il traînait comme ça.
À côté du café.
Ouais, genre, voilà. Ouais, c'était un café ou la charcuterie, je crois.
Ouais, je sais plus. On est corse, quand même.
Voilà, mais j'ai dit waouh, c'est qui a écrit ça? Et moi, elle me fait, tu veux que ce soit qui? C'est moi. J'ai dit d'accord. J'ai dit, c'est bon, je prends.
Alors Patrick Fiori, quand le monde recommencera à tourner rond, que les avions redécolleront et que partout dans le monde, je fais des rimes sans le vouloir, les salles de concert rouvriront, vous reprendrez les tournées internationales, j'imagine, parce que j'ai quand même appris que vous aviez chanté par exemple à Moscou, au théâtre du Kremlin. Tous les chanteurs français n'ont pas chanté au Kremlin.
Je sais pas, mais en tout cas moi j'ai chanté plusieurs fois au Kremlin, j'ai chanté
plusieurs fois.
Au Kazakhstan, mais c'est vrai que le Kremlin c'était, waouh, j'étais content, je l'ai fait 2 ou 3 fois je crois, le Kremlin. Et puis surtout, ce qui est important, c'est de se dire, on chante au Kremlin, mais est-ce qu'il va y avoir du monde? Parce que c'est la vraie question. Je vais chanter en Russie.
Poutine était là?
Je sais pas, mais en tout cas, il y avait des gars de la sécurité, donc il était un peu là. Et du coup, c'était plein, quoi. C'était plein à craquer. On aurait pu faire 10 soirs d'affilée. D'ailleurs, on est même allé faire des représentations avec Notre-Dame de Paris en version symphonique.
Ouais.
On a chanté plusieurs fois, même, je crois que c'est plus de 10 jours devant presque 45 000 personnes, quoi, dans des stades à bloc. Donc voilà, je savais pas qu'en Russie, ils appréciaient autant, en tout cas, la musique française, les artistes français. Et ce qui est dingue, c'est qu'ils chantaient des chansons en français, quoi, là-bas.
C'est-à-dire... Bon, alors ça vous manque.
Les rendez-vous
comme ça tout autour de la planète.
Non mais les gens, les rendez-vous me manquent. Ces rendez-vous-là, ce qui fait que je vis de mon métier et c'est une passion profonde. Moi, c'est ma thérapie. Moi, j'ai pas ça, je vais partir en dépression, quoi. Moi, j'attends que ça.
Et on vous attend. On retrouve tout de suite Patrick Fiori.
C'est l'heure de retrouver Amélie.
Dans un instant, on s'intéresse aux actions du Secours catholique avec Dominique Mainville, bénévole à la délégation de Seine-Saint-Denis.
Europe 1, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet.
On a mille choses à se dire, on ne parle pas que musique au cours de cette balade. Tiens, on va parler justement comédie. Parce que cher Patrick Fiori, vous avez fait vos premiers pas en tant qu'acteur l'année dernière dans une fiction télé spécialement écrite pour vous, Mauvaise Graine, qui a déjà été diffusée en Belgique, qui va l'être en Suisse et prochainement, en tout cas cette année donc en France. Dans cette fiction, donc, vous incarnez un homme sorti de prison pour des faits qu'il n'a pas commis et qui ouvre un centre éducatif pour ados. Bon, jouer, c'était pas, quand je dis les premiers pas, mais c'était pas totalement inconnu pour vous, puisqu'en 2010, vous aviez participé à l'aventure théâtrale de La Femme du Boulanger avec Michel Galabru, retransmise d'ailleurs à la télé. Mais cette fiction, je voudrais savoir, en fait, quel genre de défi nouveau ça a représenté pour vous ? Parce que quand même, vous portez le premier rôle. On apprend quoi au bout de 30 ans de carrière quand soudain, on se met à faire l'acteur ?
On apprend qu'on avait envie, en fait. Et déjà, cette expérience avec Cobert et Galabru sur La Femme du Boulanger m'avait vraiment titillé, quoi. Je me suis dit, waouh, c'est vachement intéressant. Alors, le théâtre, c'est une chose, c'est particulier. Et là, il y a une boîte de production qui s'appelle Morgane qui vient de me dire, ben voilà, Patrick, on aimerait tourner un unitaire avec toi, un film, quoi. Je dis, ben, pourquoi faire ? Parce que voilà, il y a un rôle d'un garçon qui s'appelle Jean Bogossian, voilà, qui monte un centre de rupture pour jeunes délinquants.
Bogossian.
Ouais, Jean Bogossian. Je m'appelle Jean Bogossian. Et d'ailleurs, il y a la réplique qui est donnée par Monsieur Michel Jonas, qui est mon papa, oui, dans cet unitaire. Et du coup, bah, ils m'ont dit voilà, ce serait pour un premier rôle. J'ai dit mais ça va pas, non. Mais pas, faut me prenez pas en premier, prenez-moi en deuxième rôle à la limite. Et puis essayez-moi. Et puis si ça va pas, je vous rembourse, quoi. Ouais, on sait jamais. Quoi. J'ai un vrai métier, sinon je m'en sortirai. Je suis chanteur. Et du coup, bah, ils ont été très persuasif. Ils m'ont vraiment taclé pendant 3 ans.
Ouais.
Et au bout
ah
de
oui,
3 ans,
de
ouais, j'ai failli. J'ai dit ok, bah, c'est
donc
bon.
Donc vous avez tourné l'année dernière.
J'ai tourné l'année dernière.
Alors,
tout le monde.
Il faut qu'on sache quand même, parce qu'on va attendre, ça s'appelle Mauvaise Graine, et on attend la diffusion en France, mais en Belgique, ça fait un carton.
Ça a fait numéro 1 en Belgique, c'était la plus grosse audience. Parce qu'on m'a dit, les journalistes là-bas, ils m'ont dit au bout de 5 minutes, on avait oublié que c'était vous. Donc c'est bon signe.
C'est voilà. Effectivement, c'est bon signe. Mais alors, c'est pour ça que je suis très surprise. Il paraît que pendant plusieurs années, vous avez fait signe en fait aux gens de cinéma qui ne vous ont jamais embarqué dans leurs aventures. Ils vous donnaient quoi comme argument ?
Ben, c'est-à-dire que j'avais fait carrément un album qui s'appelait Les choses de la vie, où je reprenais en tout cas des musiques de films sur lesquelles j'ai inventé des mélodies, j'ai fait écrire des textes, ne serait-ce que sur Jeux interdits par exemple, où c'était pas une version chantée, où j'ai réussi à faire écrire un texte ou faire voilà, essayer en tout cas de faire en sorte que le son et l'image ben, sont des amoureux, quoi. J'avais fait un album entièrement sur des musiques de films. Et je me suis dit, peut-être que ça va faire comprendre aux gens, en tout cas...
Que vous avez envie de jouer.
Ouais, que j'avais envie de jouer. Alors après, ça se passe pas que comme ça. J'avais vu des gens aussi qui font du cinéma. Ouais, on pense que tu peux le faire. Bref, des promesses un petit peu tombées
une
à l'eau.
Une présence, un physique.
Voilà, ouais, un peu des jolis compliments, quoi. Et puis finalement, ça aboutissait pas. Alors du coup, je me suis pas désespéré. Je me suis dit, bon, ben, c'est pas le moment. Je lâche tout et puis je continue à faire ce que j'ai à faire. Et c'est souvent quand on... dans ces moments-là,
quand on n'y songe plus du tout.
On n'y songe plus du tout que d'un coup... Oui, alors là, on a voilà. Un premier rôle pour toi. Est-ce que tu veux bien ? Voilà, c'est souvent comme ça. Mais tant mieux.
Est-ce que c'est une nouvelle carrière qui démarre en parallèle de la chanson ?
Oui, parce que j'ai déjà d'autres propositions.
Ah.
Donc, mais non, mais le truc, c'est que c'est pas passé. Donc je leur ai dit, calmez-vous. Attendons que ça passe en France.
Voilà. C'est à la fin de l'année, c'est ça
ouais,
la diffusion ?
Je crois, je pense que ça doit être d'ici la fin de l'année. Mais encore une fois, ce que je leur ai dit, c'est que, bon, ça a eu du succès, là, c'est bien. Mais attendons que ça passe. Et puis après, je verrai pour accepter les autres propositions ou pas.
Alors en attendant, entre la promotion de l'album Un air de famille, le concert des Enfoirés qu'on a vu hier soir sur TF1 et tous
et
les
merci
plateaux.
Merci d'ailleurs aux gens encore parce qu'ils ont été super généreux. Et puis voilà, il y a le CD, il y a le DVD.
Voilà.
On compte sur vous, quoi. Grave.
Bien sûr. Et puis tous les plateaux de télé sur lesquels on vous réclame. Eh bien, votre port d'attache reste, demeure à jamais, la Corse, Ajaccio, où vous vivez, face à la mer. Elle ressemble à quoi vos journées quand vous redevenez Corse, Patrick
Fiori ? Oh là là, écoutez, je prends ma voiture, je prends mon vieux 4x4, là, j'ai un vieux Nissan qui ne démarre même plus, là, et je descends à la pêche avec mon père, ou alors je vais balader sur la plage, je fais rien en fait, je regarde.
Vous vivez ?
Et je me dis, ouais, je vis, et je me dis que c'est vraiment la plus proche des îles lointaines, que s'il y avait une place à prendre, prendre à l'office du tourisme en Corse, j'irai, parce que je peux la vendre en 3 secondes, et que c'est une chance quand même magnifique.
Alors justement,
quoi.
Allez, on est à l'office du tourisme, là, soudain, on ouvre justement un bureau sur Europe 1. Alors Patrick Fiori, l'endroit en Corse qui pour vous est le plus stupéfiant de beauté, et qui nous relie aux dieux tellement on y est hors du temps, c'est lequel ?
Ah ben pour moi, c'est un endroit, c'est une paillote qui s'appelle la Plage d'Argent, où vous pourrez voir Ange, qui est un personnage emblématique, un garçon que j'adore profondément. Et de cet endroit-là, si vous avez la possibilité d'attendre le coucher du soleil, vous allez voir des lueurs là en face de vous, un coucher de soleil comme on peut rarement l'imaginer. C'est-à-dire que l'eau devient tellement du cristal devant vos yeux, ça devient dégradé de bleu à n'en plus finir. On peut même apercevoir le sable, on peut même apercevoir les poissons à presque 10 mètres de profondeur. Et quand vous avez cette douceur sur le visage, cette douceur de l'été qui vous caresse la peau, c'est assez impressionnant, c'est vraiment unique à vivre. Alors le monde est très très beau, parce que je l'ai visité plusieurs fois, mais je peux vous dire que la Corse reste la plus belle femme du monde.
Bon, alors après cette déclaration d'amour à la Corse, moi je m'installe en apnée sous la paillote. Voilà, on fait une pause. On retrouve tout de suite Patrick Fiori.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie sur Europe 1.
Faut marcher une vie entière pour voir mon enfance dans les yeux. J'y vais. S'il faut retrouver sa lumière quand la chandelle en vaut le jeu. J'y vais. Comme un tout premier regard. Le début de mon histoire. Et dans chacun de nos pas, on l'emporte comme une ombre. D'ici jusqu'au bout du monde, qu'importe où le temps nous portera. Il est la voix qui nous chante. Joli fantôme qui nous hante. Cet enfant qui ne nous quitte. Tous nos secrets perdus dans le temps. J'y vais dans ces printemps sans hiver, dans tous les miroirs aux reflets d'avant. J'y vais, c'est dans chacun de nos pas.
C'était le duo avec Florent Pagny sur le nouvel album de Patrick Fiori, Un air de famille.
Europe 1, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet.
Patrick Fiori, au début de cette conversation, on évoquait l'opéra qui aurait pu être une tentation, vu la voix de ténor absolument prodigieuse qu'est la vôtre. Or, il semblerait que vous n'ayez pas dit votre dernier mot. Et que vous nous réserviez une surprise, peut-être pour l'année 2022. Enfin, je ne sais pas, c'est mon ordinateur de bord comme ça qui s'emballe.
J'ai imaginé quelque chose, en tout cas, en ce qui me concerne, j'ai imaginé quelque chose, oui.
Du côté de l'opéra.
Du côté de l'opéra, oui. Et voilà, donc je suis en train de travailler là-dessus, voilà, tout simplement, en tout cas de mon côté. Mais je sais qu'il y a d'autres projets qui sont en essence, là, qui sont en train de pousser, voilà.
Comédie musicale qui se ferait avec... avec un immense chanteur, justement, d'opéra français, et qui pourrait convier les plus belles voix dont vous êtes, non ?
Ben, je sais pas, je crois qu'il y a Roberto Alagna qui est en train de préparer quelque chose, d'après ce que j'ai compris. Pour moi, c'est une Ferrari, quoi, ce mec-là.
Oui,
j'ai chanté déjà avec lui.
Une autre, alors.
Vous savez quoi? Faites très attention quand vous chantez avec lui, parce que c'est genre le mec qui te laisse passer, tu sais, il te laisse un peu de place, et puis à un moment, il te double. Et puis quand il te double, en fait, tu trembles, on dirait que t'as un tremblement de terre d'un coup sous les pieds. C'est impressionnant.
C'est impressionnant,
quoi.
Mais vous pourriez vous retrouver en 2022, on ne sait pas.
Pourquoi pas? Ben, moi, il a mon téléphone, en tout cas.
La façon qu'il a de nous répondre sans nous répondre. Bon, Patrick Fiori, en tout cas, ce qui est certain, c'est que vous serez très présent en 2022, puisque pour l'anniversaire des 10 ans de The Voice, la production dérogera à la règle et installera cette année-là un 5e fauteuil rouge, rien que pour vous, sur TF1, pendant toute l'aventure. C'est
génial, je suis content. Franchement, oui, c'est génial, parce que je voulais faire les adultes depuis longtemps, en fait. J'avais ce souhait.
Parce que vous faites The Voice Kids depuis de nombreuses années.
C'est ça, depuis de nombreuses années, je faisais les kids. Et puis, je me trouvais vraiment, en tout cas, légitime d'aller du côté des adultes. Bon, à la fois, ils ne m'avaient pas sollicité, et tout va bien, il n'y a pas de souci pour ça, tout roule. Et puis, quand ils m'ont appelé, qu'ils m'ont dit, voilà, Patrick, il y a la saison All-Star. Donc, All-Star, on parle bien la crème de la crème, ceux qui sont déjà passés dans les The Voice adultes et kids, d'ailleurs. Voilà, donc on retrouve des gens qui ont fait des albums, qui ont fait des disques.
Ah oui.
Et puis surtout cette histoire du 5e fauteuil. C'est-à-dire que moi, c'est génial pour
rien
moi.
Rien que pour vous.
Mais c'est génial parce que moi, j'ai pas fait The Voice Adult. Donc, ça veut dire qu'il y a des candidats qui vont se retrouver avec des coachs avec lesquels ils avaient déjà travaillé, que ce
alors,
soit Florent Pagny.
Alors, vous connaissez les noms des coachs.
Ah oui, bien sûr.
Alors qui sont-ils coachs?
Alors, il y a Florent Pagny, il y a Mika, il y a Zazie. Il y a Jennifer et le 5e fauteuil, c'est moi. Voilà. Mais moi, je sais rien. Je suis tout neuf, tout nouveau. Donc, j'ai pas eu de refus ni d'acceptation pour l'instant. Donc, c'est pas mal. J'ai une position assez sympathique.
Mais arriver quand même pour le 10e anniversaire, c'est une arrivée triomphale.
Écoutez, en tout cas, ils m'ont fait un beau cadeau, je suis bien content, et puis je crois qu'ils sont contents aussi, quoi.
Mais vous n'avez pas attendu 2022, Patrick Fiori, pour lancer, alors ça je trouve ça charmant, une collection de livres-disques pour enfants, illustrés par Yann Tisseron, avec un premier album écrit, raconté et chanté par vous, un livre CD qui a pour titre Zino déménage, alors ça sent le vécu, puisque votre papa était déménageur.
Et ma mère, femme de ménage.
Alors, Zino, en fait, c'est vous qui avez déménagé 19 fois au cours de l'enfance.
Ben oui, parce que je trouve que ça, c'était important à raconter quand on a ce genre de rupture-là, quand on est enfant, quand on déménage. En tout cas, je voulais parler des changements que la vie peut nous apporter, peut nous donner, parce que les situations de papa, maman changent et que ça bouge. Et souvent, ce qu'on peut se dire en tant qu'enfant, c'est avoir des ruptures un petit peu trop délicates, quoi. Ça peut perturber. Je voulais juste expliquer à ma manière aux enfants que finalement, on ne perd rien, on gagne à chaque fois. On additionne les choses pour que ça nous rende plus fort dans la vie. Et puis voilà, donc Zino déménage, c'est un personnage que j'ai imaginé il y a longtemps, au lieu de... Même avec mes neveux et nièces, au lieu de prendre des livres qui étaient merveilleux là, en face de moi, je décidais en un claquement de doigts de leur raconter une histoire et de l'inventer, là, sur le champ.
Alors, il y en a une autre qui va sortir bientôt.
Oui, il y en a une autre qui s'appelle « Sur les épaules de mon père ».
Sur les épaules de mon père.
Mais on voit la vie différemment sur les épaules.
Par
Ozu.
Par Ozu, d'accord.
Et les illustrations, vous le disiez si bien, sont de Yann Tisseron, qui est vraiment un chouette mec, quoi.
Alors, puisque dans cette conversation, en fait, on revient très souvent à la famille, est-ce que vos trois sœurs et votre frère, Patrick Fiori, vous avez réussi à les embarquer sur votre planète, c'est-à-dire la musique. Est-ce qu'ils travaillent avec vous?
Non.
Pas du tout.
Non, mais c'est leur choix de vie. Ils ont décidé de faire autre chose. Ils ont chanté avec moi, on a joué ensemble.
Ils chantent tous bien.
Oui,
ils
chantent tous bien. Et mon frère joue de la guitare, il est venu chanter avec moi sur la scène de mon dernier concert de la tournée précédente à Ajaccio. Donc voilà, la musique, c'est vraiment ce qui nous a bercé, ce qui a bercé notre famille. C'est vraiment un air de famille. Et donc évidemment, il y a plusieurs lectures dans cet air de famille. Mais eux ont choisi des horizons différents et des boulots différents. Mais ça reste des passionnés de musique, quoi qu'il en soit.
Alors, on disait en préambule de cette conversation que vous aviez la vie idéale, puisque vous aviez exactement la vie dont vous avez rêvé enfant. Mais bon, avec l'âge, bien sûr, on se crée de nouveaux défis. Alors, quel est le challenge, peut-être vraiment inattendu, auquel vous rêvez à présent de vous frotter dans les années qui viennent?
Waouh, il y en a beaucoup, hein.
Qui vient à l'esprit.
C'est une bonne et vaste question. Le premier qui me vient à l'esprit, c'est d'essayer de surprendre encore, parce que se surprendre soi-même, c'est surprendre les autres. Mm-hmm. Et essayer de regarder les choses sous un autre angle et innover, certainement. Essayer d'apporter encore des choses
pour réconforter
les gens.
Mais alors, innover de quelle manière?
Dans la musique. dans la musique,
dans la musique production.
Déjà avant tout, et puis aussi écrire des émissions, en tout cas des choses pour présenter à des chaînes de télé.
Voilà. Mais voilà.
Je suis en train de faire ça là. Voilà. Et donc me diversifier en fait. Voilà. Je crois que c'est ça.
Donc vous êtes en train d'imaginer des concepts d'émissions de télé.
Mais je les ai imaginés, mais ils sont déjà en train d'être produits. Voilà. Donc je pense que la diversification, elle est importante. Être chanteur dans la vie, c'est ma passion. Mais évidemment que ça, ben, grâce ou à cause des gens, ben, ça m'a ouvert d'autres horizons. Et puis j'ai d'autres projets un peu particuliers, celui dont je vous parlais tout à l'heure, voilà, qui sera pour l'année prochaine et qui est en train d'être
monté. Du côté de l'opéra.
Voilà, du côté de l'opéra.
C'est foisonnant. Bon, en tout cas...
J'ai tout dit.
Il a tout dit. Nous, ça nous réjouit de savoir que vous nous donnez en fait énormément de rendez-vous. En attendant, pour plonger dans votre univers, Patrick Fiori, il y a l'album Un air de famille. Vraiment, c'était formidable, comme ça, de cheminer ensemble, d'agiter les
balade.
Souvenirs. Et puis voilà, écoutez, vous embrassez la famille.
Ce sera fait.
Comment se dit-on? On se voit très bientôt en Corse.
On se le dit pas, on se regarde et puis on le comprend. Mais sinon, c'est una prossima volta.
Eh ben, formidable.
On approche à une prochaine fois.
À bientôt.